Bonjour à toutes, bonjour à tous, on s'est donné rendez-vous autour d'un micro avec Aurélie pour accueillir Françoise Saint-Père.
Alors, qui est Françoise Saint-Père, Fifi ?
Françoise est une journaliste qui a travaillé pour de nombreux magazines pour traiter des sujets sociaux, environnementaux et scientifiques, par exemple.
Et surtout une autrice d'une vingtaine de livres, dont des romans, des nouvelles et des essais. Son dernier livre est paru en 2017, c'était « Fascination du chercheur ».
Mais aujourd'hui, on reçoit Françoise pour un de ses essais « Aimer plusieurs hommes », édité pour la première fois en 2002 et réédité cette année aux éditions Tabou.
Bonjour Françoise.
Bonjour.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à notre petite présentation ?
Non, ça me semble parfait.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ton livre « Aimer plusieurs hommes » ?
Je vivais des amours pluriels depuis toujours, puisqu'on a commencé très tôt, juste après notre mariage avec mon mari, donc. Et un jour où j'avais été invitée sur un plateau pour une émission sur la fidélité, j'ai rencontré Maryse Vaillant, qui était une psychologue aujourd'hui décédée, et qui m'a demandé de faire ce livre en me disant « Vous allez bien au-delà d'une question de fidélité ou infidélité, c'est toute une remise en cause du couple que vous faites. »
Pourquoi, selon toi, ce livre a eu tant de succès ?
Parce que je crois que beaucoup de femmes en avaient envie, parce que beaucoup de femmes ont envie de vivre des amours, et pas seulement des choses sexuelles. Là, en fait, les aventures d'un soir les intéressent beaucoup moins. Et puis aussi parce que j'ai osé dire que les femmes avaient des désirs, ce qui a libéré leur parole. Moi, j'ai reçu énormément de lettres de femmes, d'hommes aussi d'ailleurs. Les femmes me disaient merci d'avoir osé écrire ce que je pensais et n'osais pas dire. Et les hommes me disaient on est content de voir une femme qui est à la fois libre mais qui ne déteste pas les hommes.
Pourquoi choisir de rééditer ce bouquin en ce début 2018 ? Parce que c'est la cinquième fois.
Voilà, c'est la cinquième réédition cette année. Je ne voulais pas le faire parce que je trouvais qu'il avait fait son temps. Et puis, il y a pratiquement toutes les semaines, j'avais des gens qui me disaient « Voilà, je commence le polyamour » ou bien « Je suis en pleine crise conjugale, je cherche votre livre qui pourrait m'aider, je ne le trouve pas. » Et ben voilà, c'est juste face à la demande que je l'ai réédité.
Alors, entre la première publication du livre en 2002 et la réédition de cette année, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le texte ?
Il y a eu évolution dans chaque édition, c'est-à-dire dans les cinq, parce qu'à chaque fois, moi, j'ai vécu des choses nouvelles. Il y a des choses sur lesquelles je suis revenue. Et puis aussi, mes enfants ont grandi, parce qu'elles étaient petites à la première édition, elles étaient adultes à la dernière. Et que le côté des enfants, c'était important, parce qu'ils ne réagissent pas du tout de la même façon, selon qu'ils ont 3 ans, 15 ans ou 30 ans, quoi. Donc j'en ai parlé.
Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est un peu une autobiographie, du coup, jamais terminée de ta vie amoureuse ou de ta vie privée ?
Je ne crois pas que ce livre soit une autobiographie. Je suis partie de mon histoire parce que c'est celle que je connaissais et puis aussi parce qu'elle a une durée, donc j'ai une crédibilité. Y a des gens qui commencent à faire des ateliers de formation au polyamour alors que ça fait 6 mois qu'ils ont essayé. Je pense que c'est même imprudent. Mais ce n'est pas une autobiographie parce que pour moi, ça a été beaucoup plus une occasion de réfléchir à ce qui sous-tend la vie privée des gens, c'est-à-dire pourquoi le couple, pourquoi une telle résistance à une ouverture, pourquoi les femmes sont-elles autant inégales que les hommes sur ce plan-là aussi. Voilà, c'était beaucoup plus politique que privée.
Tu nous expliques dans ton livre qu'au départ, tu as vécu plutôt une relation libre avec ton mari. À quel moment ça s'est transformé en ce que tu as appelé des amours pluriels plutôt que des amants ?
Alors, au début, ça n'était pas que des amants, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de... Dans les couples ouverts des années 70, puisque c'était le milieu des années 70, c'était plutôt lié à la libération sexuelle post-68ard. Donc, effectivement, on était super contents aussi, parce que ça avait été contraint avant. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que c'était répétitif, et puis que ça ne donnait pas de la liberté, puisque mon mari, notamment, voulait fixer des règles très précises. Je veux pas que tu tombes amoureuse. Oui, si c'est une histoire de fesses, ça va. Ou même une histoire un peu plus, mais il avait toujours peur que son rôle de premier parmi les autres soit remis en cause. Et moi, j'avais pas envie de faire de classement, parce que pour moi, c'est pas il y en a un qui compte plus que les autres, c'est vraiment des projets de vie différents. Et différents, ça veut pas dire mieux ou moins bien, quoi. C'est surtout ça. Et puis aussi parce qu'il avait envie d'avoir le contrôle sur mes sentiments. Et je me suis dit, il me laisse, parce qu'à l'époque, il avait l'impression de me laisser. Il a mis du temps à comprendre que c'était pas qu'il me laissait la liberté, mais que c'était ma liberté et que je la prenais.
Que tu la prenais, ouais.
Voilà, ça, il lui a fallu du temps et je lui rends hommage aujourd'hui, où ça fait 50 ans qu'on se connaît. Pour lui, ça a été une démarche certainement beaucoup plus difficile que pour moi. Et c'est devenu amour pluriel quand je me suis dit, mais non, mais en fait, moi, je veux vivre ce que j'ai envie de vivre, de la façon dont j'ai envie de le vivre, parce qu'il n'y a aucune raison que quiconque entre dans mon cerveau pour me dire ce que je dois faire.
Alors, il est bien difficile de ne pas faire l'amalgame entre le polyamour et l'adultère consenti. Que dirais-tu à ceux qui ne saisissent pas la nuance ?
Eh bien, je dirais que je crois que l'adultère consenti, c'était un peu le couple ouvert des années 70. C'est-à-dire, tu as le droit d'avoir des histoires d'un soir ou de pas trop longtemps, mais souvent, il ne fallait pas que ça dure longtemps. C'est la même chose dans les clubs échangistes. Les gens veulent bien, et moi, là ça m'épate. Ils sont choqués par le polyamour, mais ils ne sont pas choqués par le fait qu'on aille dans une boîte et qu'une demi-heure après, on fasse l'amour avec des gens qu'on ne connaissait pas une demi-heure avant. Moi, c'est un truc qui me sidère un peu. Mais pour eux, c'est moins dangereux parce que ça ne remet pas en cause le sentiment. Et en fait, c'est assez curieux parce que dans les années 60, c'était tu peux être ami avec un tel, mais surtout tu couches pas. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt tu peux coucher si tu veux, mais surtout tu aimes pas. Et je dirais que le polyamour, c'est la capacité à ne pas faire de séparation entre les affinités intellectuelles, affectives et sexuelles. Elles viennent dans une relation à des doses différentes. Hein. Il y a aussi des gens avec qui on n'a pas de sexe parce qu'il n'y a pas de désir. Mais disons de ne pas mettre de barrière. Voilà. Et l'adultère, il veut bien, mais il met la barrière du sentiment, l'adultère consenti.
Alors, il y a un chapitre qui s'appelle « Fidèle, mais pas exclusive ». Est-ce que tu peux nous expliquer ta conception de la fidélité ?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la notion de fidélité, en remarquant notamment que dans le Pax, en tout cas le premier Pax qui avait été fait, il n'y avait pas d'obligation de fidélité pour les gens paxés. Donc, je me suis dit, ça vient du mariage, et le mariage, c'est quelque chose de religieux. L'exclusivité sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement religieux qui veut dire on ne peut pas disposer de son corps. La fidélité, ça vient du latin fides fidei, ça veut dire la confiance. Et pour moi, la fidélité, c'est se faire confiance à l'autre et puis être là quand il en a besoin. Parce que je connais des gens qui se sont jamais trompés sexuellement, mais qui se regardent pas. Combien de femmes ont écrit en me disant j'ai l'impression de faire partie des meubles. Il s'est pas rendu compte que j'étais dépressive. Combien d'hommes me disent ma femme de toute façon elle est dans ses histoires, etc. Elle voit pas ce que je pense. Ça me semble de l'infidélité, de pas être capable d'être présent à l'autre quand il en a besoin. Et pour moi la fidélité c'est ça, c'est être là quand il en a besoin. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas une propriété sur le corps de l'un ou de l'autre.
Oui, et puis toi, du coup, tu as eu des histoires longues, en fait.
Mes amours sont très rarement temporaires. Enfin, ça a pu m'arriver, hein, en vacances, de rencontrer un monsieur sympathique et que ça ne dure pas, mais c'est très rare, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai très peu d'amour de vacances, parce que je sais que ça ne durera pas. Mais j'ai des hommes qui sont dans ma vie depuis quasiment autant que mon mari, pas tout à fait, mais enfin, il y en a un qui est là depuis 45 ans. Maintenant, il est vieux, parce qu'il était déjà nettement plus âgé que moi. Je continue très régulièrement à l'appeler, bon on se voit plus parce qu'il est malade maintenant, j'ai plein d'amour que j'ai depuis des années qui évolue bien sûr, c'est plus peut-être des amants amoureuses, mais ça reste des amis tendres, c'est-à-dire c'est des amis, mais avec le souvenir aussi et la sensualité qui fait que cette sensualité ne disparaît jamais, ce sont pas juste des copains quoi, et ceux-là je les garde très longtemps.
Donc, t'es une grande fidèle, en fait.
Ah, moi, je suis très, très fidèle, oui. Je suis extrêmement fidèle en amitié, extrêmement fidèle en amour. Et je suis contente de voir que beaucoup de mes hommes sont fidèles. Le jeune homme au téléphone de mon premier livre érotique m'a recontacté 20 ans après, en me disant, oui, je vous avais laissé tomber parce que la vie nous avait éloignés. Et puis, brusquement, j'ai eu envie de savoir ce que vous deveniez. Et ça m'a fait super plaisir.
Il y a deux notions dans le mot polyamour. Il y a la notion de poly plusieurs, d'accord, mais il y a surtout la notion d'amour. Et tu décris quelque chose qui m'a frappée au début du livre. Tu parles de l'amour inconditionnel dont tu n'as jamais douté, qui est venu de tes parents, et tu l'expliques comme une base solide. Et ça m'a paru tellement évident que j'aimerais que tu le racontes à nos auditeurs et nos auditrices, de savoir pourquoi l'amour de tes parents t'a permise, t'a conduite au final vers la capacité d'aimer.
Je crois que beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils se sont demandé si leurs parents les aimaient. Et c'est très fréquent. Alors des fois, c'est avec raison parce qu'il y a eu un problème en famille. Et d'autres fois, c'est purement dans leur tête. Hein. Mais ça ne s'explique pas. Et moi, j'étais complètement naïve. J'avais la foi du charbonnier. Je me disais, c'est mes parents, donc ils m'aiment. Bon, en plus, ils m'aiment. Mais disons que j'avais cette foi du charbonnier. J'ai jamais eu de doute. Alors que peut-être que mes frères et sœurs ont eu des doutes. Et du coup, je me suis toujours vécue comme aimable, c'est-à-dire pouvant être aimée par quelqu'un. Et en plus, les parents, c'est quand même super important. Ce qui fait qu'après, j'ai pu aussi accepter de ne pas être aimable. J'ai pu accepter que des gens n'aient pas d'envie d'être avec moi parce que je n'étais pas en recherche affective permanente. Et je crois que c'est ça qui m'a permis de bien vivre mes amours. Je n'étais pas en recherche affective, donc beaucoup moins en dépendance. Parce que finalement, les gens en recherche affective, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'il leur fallait de socle solide dans l'enfance, ensuite, ils s'accrochent au premier venu qui peut les aimer, ou au premier, au pluriel d'ailleurs. Mais du coup, ils ont beaucoup de mal à vivre les amours pluriels, parce qu'ils vivent comme une blessure le moindre manquement. Moi, quand il y a un manquement ou quand ça ne marche pas, je me dis, mauvaise pioche, quoi. C'est tout.
Alors, tu évoques quelque chose qui me parle beaucoup, c'est la notion du territoire de chacun. À ce propos, tu cites Virginia Woolf, une chambre à soi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est quelque chose de presque indispensable dans un couple, cette idée d'avoir son propre territoire ?
Je trouve que le mariage, le couple traditionnel, c'est terrible parce qu'on perd une indépendance qu'on avait étant jeune. Alors, sur le plan juridique d'ailleurs, dans le code Napoléon, la femme mariée redevenait mineure alors que la femme célibataire était majeure, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ça prouvait bien la dépendance au mari. Et ça se passe encore aussi avec la chambre conjugale. Quand on est petit, on veut tout de suite avoir une chambre à soi. Et quand on partage avec vos frères et sœurs, c'est le cadeau quand les parents disent « tu vas avoir ta chambre ». Puis là, brusquement, on n'a plus de chambre à soi. Et c'est vrai que dans une chambre conjugale, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si l'un des deux frappe et que l'autre lui fait « non, tu ne rentres pas » parce qu'il est en train d'écrire son journal intime ou qu'il n'a pas envie, qu'il a envie d'être seul, c'est mal pris. Et donc, moi, je crois qu'on a vraiment besoin d'un territoire, parce que sinon, très vite, on étouffe. On a l'impression qu'on a gommé une partie de soi. Alors, le territoire, c'est aux deux sens du terme. Quand on peut le faire, c'est avoir un petit territoire géographique, mais qui peut être juste un coin de bureau à soi, où on peut ranger ses affaires et où l'autre ne vient pas. Si on a les moyens, ça peut être chacun sa chambre, et puis qu'on vient se rendre visite, ce qui est très, très agréable. Voilà. Mais c'est aussi le territoire dans la tête. C'est-à-dire que, moi, je trouve terrible les gens qui se regardent et font « à quoi tu penses ?» parce que l'autre ne parle pas. Généralement, la personne répond non à rien parce qu'elle n'a pas envie d'en parler. Et l'autre fait la gueule, mais si, tu penses à quelque chose. Et ça, je trouve ça terrible. On a le droit d'avoir ses propres pensées et de ne pas les dire même à la personne qu'on aime le plus au monde.
Par acquis de conscience, avant le départ, j'avais rédigé un mode d'emploi de la maison. Ce simple exercice m'avait montré combien, depuis 20 ans, je m'occupais d'à peu près tout, au point que mon mari ignorait les coordonnées de notre médecin de famille, l'emplacement du dossier où je rangeais les doubles des déclarations de revenus et jusqu'au salaire de la femme de ménage. Il n'avait rien fait pour s'en informer, d'ailleurs, sans que j'y prête vraiment attention. Aux filles, j'avais expliqué que je partais écrire un livre sur une île et que nous passerions ensuite les vacances d'été ensemble. C'était totalement inédit, puisque d'ordinaire, je n'avais pas assez de congés pour passer 2 mois avec elles. Elles avaient promis de m'écrire souvent, et ma logeuse en Grèce avait accepté qu'elle m'appelle le soir sur son téléphone. La première quinzaine, j'ai reçu des coups de fil tous les 3 jours, portant essentiellement sur des questions pratiques, des conseils de cuisine, des problèmes de courrier. Tout cela me maintenait dans le rôle de gardienne du foyer, même à distance. Et puis un beau jour, mon mari annonça fièrement qu'il n'avait plus besoin de consulter le fameux mode d'emploi et que tout se passait bien. Ma plus jeune fille, auprès de qui je m'étonnais de n'avoir pas encore reçu de lettre d'elle, répondit du haut de ses 7 ans « Ah oui, j'ai oublié de t'écrire, j'ai trop de trucs à faire !» J'appris qu'au journal, tout allait bien. Bref, en 3 semaines, j'étais devenue totalement superflue et loin de me blesser, cela me réjouissait. J'étais désormais très lucide sur les urgences réelles et celles que l'on s'impose sans autre raison que le désir d'être indispensable.
Je sais que je n'ai pas échappé à ces problèmes de charge mentale, d'abord pour une question de génération. J'ai regardé vivre ma mère qui, elle, assumait tout parce que ça faisait partie de son rôle à l'époque. En plus, elle était mère au foyer, elle ne travaillait pas à l'extérieur. Donc, je me suis imbibée de cela. Et puis, ensuite, j'ai fait... Effectivement, tout à fait naturellement, mais tout en me disant « j'en ai marre de tout faire, de tout assumer ». Bernard, mon mari, c'était comme tant d'hommes, c'était « je t'aide ». Mais prendre en charge la charge mentale, non. Et encore, on me disait, ben, il est sympa, hein, il t'aide à faire ceci ou cela. Mais je me suis rendu compte aussi que quelque part, ça me permettait, et ça c'est vrai qu'on se croit indispensable, c'est moi qui savais tout. Et c'est vrai que le soulagement que j'ai eu quand je me suis dit, je ne suis pas indispensable ni à mon journal, alors qu'on m'avait promis que je perdrais mon boulot si je partais, finalement je ne l'ai pas perdu, ni en famille, je n'étais indispensable, ça m'a donné une liberté d'esprit qui est vraiment... Ça allège, voilà. C'est exactement quand on dit charge mentale, et ben quand on enlève la charge mentale, on se sent beaucoup plus léger. Et moi, j'incite toutes les femmes à dire non, ce soir, je n'ai pas envie de faire la cuisine. Ben, tiens, tu fais quelque chose, ou bien alors on va au restaurant. Et je pense que beaucoup de problèmes de charge mentale viennent plutôt des femmes que des hommes. C'est-à-dire, les hommes, ils sont contents. Hein. J'en avais parlé avec mon mari. Il m'avait dit, bah, tu ne me demandais pas, tu faisais tout. Je vois pas pourquoi je me serais chargée à mon tour. Ce que je comprends très bien. Mais beaucoup de femmes n'osent pas le demander. Ou alors, elles ont tellement intégré que c'était elles qui devaient assumer qu'elles n'imaginent même pas que ça puisse se passer autrement.
Pour que ça marche, est-ce qu'il faut que chacun ait des amours pluriels ?
Alors, globalement, un couple monopoly, comme on dit, c'est quand même difficile quand l'un est totalement monogame dans l'âme, dans l'esprit et tout ça, et l'autre très polyamoureux avec beaucoup d'aventures ou d'histoires sérieuses. Encore pire si ce sont des histoires sérieuses. Donc le Monopoly, il ne faut pas trop y jouer. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille dire il faut que chacun ait des amours pluriels, parce que ça, on arrive à une sorte de compétition où c'est, ah là là, il a une copine ou un copain, donc il faut que moi j'en ai aussi, etc. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est selon son rythme. Moi, il y avait une très jolie expression d'un polyamoureux que j'aime beaucoup, c'est « la porte est ouverte, on sait qu'on peut la passer, mais on sait aussi qu'on peut la garder fermée si on n'en a pas envie ou ne pas la passer. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée de liberté de faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai passé des périodes sans aucun autre copain, des périodes totalement chastes, des périodes célibataires quand je suis allée en Grèce. Voilà, il ne faut pas se mettre, puisqu'on est polyamoureux, il faut avoir plein de nanas ou plein de mecs. Et puis, je veux préciser aussi, d'ailleurs, que ça ne concerne pas que les couples hétéros, hein, mais ça concerne aussi les couples homo. Mais alors, les homosexuels masculins sont bien plus ouverts au fait d'avoir, comme ils disent, des sex friends, ils disent mon mari, mes sex friends, mes sex potes, et pour eux ça représente des niveaux de relations différents. Je dirais que chez les filles c'est plus, comme les couples hétéros, c'est-à-dire il y a plus de possession, de jalousie. Enfin, dans celles que j'ai connues, j'ai plus remarqué ça.
Avec le polyamour, on multiplie les bonheurs dans l'amour, mais est-ce qu'on multiplie aussi les chagrins ?
Mais je crois que si on multiplie les bonheurs, on multiplie aussi les chagrins. Alors, pas trop les conflits, parce que ça a l'avantage quand même, les relations plurielles. C'est que, enfin, pour ma part, je ne suis pas passionnelle. Hein, je ne suis pas le genre, parce que je pense que vivre plusieurs passions, ça doit être épuisant. Donc, je ne suis pas passionnelle, je suis plus dans des relations amoureuses. Et elles sont plus légères quand on en a plusieurs, parce que justement, on ne met pas sur une personne tout le poids de ses besoins affectifs, de ses carences, de ses conflits, tout ça.
Est-ce qu'il est difficile en tant que femme de tenir une posture comme la tienne, de quelqu'un qui assume ses désirs et qui les vit ?
C'est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme. On a appelé le livre « Aimer plusieurs hommes », ben d'abord parce que c'était une femme qui l'écrivait, mais aussi parce que c'était bien plus vendeur. Parce qu'on aurait mis « aimer » au pluriel, les gens auraient pensé à un homme qui aime plusieurs femmes, et pour eux, ça leur semble naturel depuis toujours, que ce soit adultérin, que ce soit partouzeur, n'importe quoi. Parce qu'une femme n'était pas censée, pendant très longtemps, avoir des désirs, et encore plusieurs désirs, d'autant plus. Donc, ça va de gens qui m'ont sauté dessus, et puis quand je leur disais non, me disaient « Ah, mais je croyais que tu étais une femme libre ou libérée ». Alors, leur expliquer qu'être libre, c'est justement pouvoir dire non quand on n'a pas envie, c'est compliqué. Il y a ceux qui s'imaginent que je suis une experte en sexe et alors qui ont soit très très envie d'essayer parce qu'en se disant je vais apprendre des trucs, soit au contraire qui sont terrorisés en se disant je vais être nulle, je ne vais pas assurer. Donc en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a une image complètement faussée. Et quand les journalistes me disent « on aimerait vous filmer, surtout journalistes télé, vous filmer dans votre vie de polyamoureuse », je leur dis « comme je n'ai pas franchement l'intention de vous amener dans mon lit, à part ça, vous ne verrez rien, je vis une vie normale, je travaille, j'ai élevé mes filles, j'ai des amis, j'ai les activités de tout un chacun. La seule différence, c'est que ce n'est pas toujours la même personne avec qui je suis et dans les bras desquels je suis. Voilà. »
Vers quel discours il faut tendre pour commencer à sortir de cette espèce de doctrine imposée du couple hétéro-monogame qui nous est au final martelée, surtout aux femmes, depuis des générations.
Je crois qu'il faut prendre conscience d'abord que le couple, c'est une base économique. D'ailleurs, c'est le ménage, en fait, c'est ce qu'on appelle la cellule du ménage. C'est aussi un gage de stabilité parce que les gens qui se mettent en couple, très souvent, se mettent à avoir des enfants, à s'endetter pour une maison. Et donc, une fois qu'ils sont avec des crédits sur le dos, ils seront beaucoup moins révolutionnaires. Donc, sortir du couple, c'est déjà une attitude relativement révolutionnaire. Moi, maintenant, ce que je dis aux gens, c'est il faut se mettre dans la tête qu'on n'appartient à personne et que personne ne vous appartient. C'est-à-dire cette idée de possession et de propriété qui est quand même très, très religieuse. C'est vraiment parce que c'est Dieu qui disait aux humains de s'unir pour faire des petits-enfants et des petits chrétiens. Mais si on y réfléchit, il n'y a aucune raison qu'on appartienne à quelqu'un et il n'y a aucune raison de vouloir posséder quelqu'un. Et c'est ça la première chose.
Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton livre, c'est aimer et du coup pouvoir se réjouir du bonheur de l'autre. Sans forcément d'ailleurs être inclus dans ce bonheur, quoi, on peut dire.
Alors, ce terme-là, je crois que c'est au Canada qu'ils l'ont inventé. Ça s'appelle la compersion, qui n'existe pas dans le dictionnaire, hein, qui est effectivement le fait de se réjouir du bonheur de l'autre. Alors, moi, je suis très compersive. Tous les bonheurs qui peuvent arriver aux gens que j'aime, je suis très contente. Je n'irai pas jusqu'à dire, chaque fois qu'un de mes amoureux m'annonce « Tiens, j'ai une nouvelle amoureuse, elle est super », que j'en suis super contente non plus. Hein, je ne suis pas une sainte. Il y a des fois, je me dis « Putain, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?» Parce qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et puis après, je me dis « Ben non, elle n'a pas quelque chose de plus, elle a quelque chose de différent, donc ça lui apporte. » Et à ce moment-là, je me réjouis. Mais il ne faut pas croire qu'on est comme ça, béat à dire « Je m'efface complètement », ça serait terrifiant d'ailleurs. Je pense au contraire qu'il faut peut-être avoir un ego assez important pour pouvoir être polyamoureux. Comme ça, on ne se sent pas atteint chaque fois que l'autre connaît quelqu'un. On se dit « Ben non, j'existe, à ma façon, je suis unique. Je ne suis pas l'unique, mais je suis unique. »
On vous invite à lire Aimer plusieurs hommes aux éditions Tabou. Voilà, c'est vraiment très intéressant et plein de réflexions sur le couple. Et
qui, paradoxalement, peut aider des couples à beaucoup mieux vivre et non pas à les détruire.
Merci Françoise.